La page que nous allons écouter est un enregistrement de la page écrite que vous trouverez dans l'espace biblique Pourquoi lire la Bible? Et vous avez dans Pourquoi lire la Bible l'interprétation de la Bible. Donc je vous rappelle que vous avez une version écrite, disons une page web correspondant à cet enregistrement. Donc le passage que nous allons lire est le chapitre 5 de Comment interpréter la Bible à la lumière de la tradition de l'Église. Donc, partie 5, les clés de lecture traditionnelles. Introduction. Les clés traditionnelles, comme leur nom l'indique, ne sont pas le fruit de mes trouvailles personnelles. Elles sont en fait des méthodes d'interprétation qui remontent au premier siècle du christianisme. Elles furent utilisées quasi systématiquement par ces premiers auteurs chrétiens qui ont tant contribué à modeler la théologie de l'Église, je veux ici nommer les pères de l'Église. Certes, tous n'y ont pas eu recours, certains préférant une approche plus historique, confère par exemple Saint Jean Chrysostome. Mais il n'en reste pas moins que la grande majorité de ces géants de la foi ont fait de ces clés de lecture leur outil de prédilection. Citons d'abord les auteurs des épîtres du Nouveau Testament, au premier rang desquels se trouve Saint Paul en personne. Confère 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2, 1 Corinthiens 10, versets 6 à 11, Galates chapitre 4, versets 21 à 31, et j'en passe. Il y eut par la suite Saint Grégoire le Grand, un des plus grands papes. Son commentaire de Job est à cet égard un chef-d'œuvre. Et enfin, n'oublions pas le plus expert de tous en la matière, Origène, qui mania ses clés avec une dextérité inégalée, parfois jusqu'à l'excès. Cette interprétation spirituelle, traditionnelle ou classique, subdivisée en quatre sens, n'a malheureusement plus les faveurs des exégètes modernes, qui se sont tournés depuis quelques décennies déjà, et ce, presque exclusivement, vers la méthode historico-critique. Approche à vrai dire plus destinée à la tête qu'au cœur. Cette méthode a tellement asséché le puits des saintes Écritures que de plus en plus de chrétiens, salutairement, redécouvrent l'interprétation spirituelle. Ils reviennent aux sources, si je puis dire, se réappropriant un savoir-faire datant des origines du christianisme. Pour preuve, le synode des évêques d'octobre 2008, consacré à la parole de Dieu, qui n'a pas manqué de rappeler la nécessité de dépasser l'interprétation historico-critique pour aller chercher l'essence spirituelle de l'Écriture. Enfin, signalons que le catéchisme de l'Église catholique lui-même fait mention des sens spirituels de la Bible, confère les paragraphes 115 à 118, ce qui montre bien l'ancienneté et la vénérabilité de ce qu'on peut appeler, à juste titre, les clés de lecture traditionnelles. Voici maintenant une mise en garde. Avant de commencer la présentation de l'interprétation spirituelle proprement dite, il est important que vous gardiez à l'esprit ces quelques remarques. Tout d'abord, la segmentation des différentes interprétations dans l'exposé qui va suivre n'est en rien une incitation à segmenter votre propre méditation. L'esprit est maître et lui seul peut vous donner l'intuition de savoir si telle ou telle interprétation est pertinente pour tel ou tel passage. Ainsi, vous ne devez pas croire que tout passage biblique se prête obligatoirement à toutes les interprétations. Comme je viens de le dire, le bon sens éclairé par l'esprit doit prévaloir. Il se peut également que deux types d'interprétations se rejoignent. Il n'est en effet pas rare que l'interprétation dite tropologique rejoigne l'interprétation anagogique ou allégorique, voire littérale, selon évidemment le passage biblique médité. En résumé, le maître mot dans l'utilisation des clés qui vont vous être fournies est souplesse, toute rigidité mécanique étant à fuir absolument, sous peine de faire violence au texte. Cela étant dit, il est bon d'être conscient de l'existence de ces clés de lecture. En ce sens, la présentation segmentée ci-dessous peut vous aider. Plus vous les utiliserez, je parle de ces clés de lecture, plus elles vous paraîtront naturelles dans votre méditation. L'esprit pourra alors s'en servir comme des outils, non pas artificiels, mais bien plutôt à la manière du bâton de Moïse. Confère Exode chapitre 4, versets 2 à 5, puis chapitre 14, verset 16, chapitre 17, versets 5 à 6, et verset 9. Donc ce bâton, le Moïse, qui lui fut confié par Dieu pour soutenir sa marche vers une foi plus grande. Certes, il se peut qu'au début, vous deviez laborieusement faire appel à ces clés de manière systématique et mécanique. Mais comme il vient d'être dit, cette utilisation laborieuse avec l'expérience deviendra plus fluide et naturelle, se rendant par là plus docile à l'inspiration de l'esprit. Maintenant, passons vraiment au sens littéral ou historique, donc le premier des sens traditionnels. Ce sens n'est pas à proprement parler un sens spirituel. Il est pourtant le préalable à toute interprétation spirituelle. Comme le dit saint Thomas d'Aquin lui-même, tous les sens de la Sainte Écriture trouvent leur appui dans le sens littéral. Bien que ce sens littéral soit vital, il ne faudrait pourtant pas croire qu'il est difficile à saisir. Bien au contraire, il est, si j'ose dire, à la portée du premier lecteur venu. En effet, il concerne le texte pris au premier degré, notamment quant aux faits dont il rend compte. Ce sens nous révèle, en fait, que Dieu intervient dans la vie de l'humanité, dans son histoire. De ce point de vue, l'expression « sens historique » pour « sens littéral » est éclairante, quand le passage lu traite effectivement d'événements historiques. En définitive, le sens littéral de l'Écriture est celui qui était exprimé directement par les auteurs humains inspirés. Étant le fruit de l'inspiration, ce sens est évidemment voulu par Dieu, auteur principal. Mais attention, ce sens littéral n'est pas à confondre avec le sens littéraliste auquel s'attachent les fondamentalistes. Ainsi, quand il s'agit d'un récit, le sens littéral ne comporte pas nécessairement l'affirmation que les faits racontés se soient réellement produits, car un récit peut ne pas appartenir au genre historique, mais être une œuvre d'imagination, confère le livre de Job, véritable conte philosophique, et dans une certaine mesure les livres de Ruth et de Daniel, écrits bien plus tard que les événements relatés, et adaptés pour une très large part aux préoccupations contemporaines des auteurs de ces livres. À la lumière de ce qui vient d'être dit, on comprendra mieux que ce sens dit littéral est quasiment identifiable à notre époque moderne à ce que nous avons vu précédemment dans les clés préparatoires, à savoir les approches historico-critiques et rhétoriques. En effet, nous avons vu que le but principal d'une analyse historico-critique est précisément de découvrir le sens voulu par l'auteur humain de tel ou tel livre biblique. De plus, cette approche, ainsi que l'approche rhétorique, est de toute première nécessité dans la mesure où l'une et l'autre lissent les aspérités choquantes du sens littéral. Par ce fait, elle nous aide à retirer du sens littéral une nourriture, par exemple comprendre que Dieu nous aime là où nous en sommes, qu'il désire nous parler dans les événements du quotidien, etc. Et ce même quand le sens littéral est scandaleux. Ou bien encore, ces deux approches peuvent nous éclairer sur les limites des auteurs humains, compte tenu de leur époque, nous permettant au moins de passer outre le sens littéral quand ce dernier est véritablement inacceptable. Car il y a des cas où ce sens est tout bonnement impossible à considérer tel quel sans l'appui des méthodes historico-critiques ou rhétoriques. Ces impossibilités du sens littéral n'avaient d'ailleurs pas échappé au grand théologien Origène qui n'hésite pas à donner des exemples précis. L'inceste, par exemple, entre Lot et ses filles, Genèse 19, versets 30 à 38. Les deux épouses d'Abraham, l'épouse légitime Sarah et la servante Agar, confère Genèse chapitre 16. Ce dernier exemple, s'il était pris dans sa littéralité, donnerait des interprétations assez inattendues, puisque, entre autres, il justifierait l'emploi de mère porteuse. Avouez que l'on serait bien loin de la doctrine morale du Christ et de son Église. Dans ce dernier cas, comme nous l'avons vu dans la section consacrée à l'approche historico-critique, seule une prise de conscience par le biais de l'archéologie du fait que c'était à l'époque pratique courante nous permet de dépasser le scandale du sens littéral pour passer au sens spirituel, comme Origène le conseille. Il faut dire qu'en cela, notre théologien et père de l'Église est en bonne compagnie. Paul en personne ayant donné une interprétation spirituelle de ce même passage. Confère Galates, chapitre 4, versets 21 à 31. Les psaumes sont un autre casse-tête. En effet, certaines invectives dans les psaumes prises littéralement sont purement et simplement intolérables à la lumière de l'amour chrétien. Jugez-en plutôt. Que les pécheurs soient retranchés de la terre, et qu'il n'y ait plus de méchants. Mon âme bénit l'Éternel, louez l'Éternel. Psaume 104, verset 35. Le Seigneur tint en main une coupe où fermente un vin capiteux, Il le verse et tous les impies de la terre le boiront jusqu'à la nuit. Et moi j'annoncerai toujours dans mes hymnes au Dieu de Jacob, je briserai le front des impies et le front du juste s'élèvera. Psaume 75, versets 9 à 11. Et encore, à qui le hait Dieu fracasse la tête, à qui vit dans le crime il défonce le crâne. Le Seigneur a dit, je les ramène de Bazan, je les ramène des abîmes de la terre, afin que tu enfonces ton pied dans leur sang, que la langue de tes chiens ait sa pâture d'ennemis. Psaume 66, versets 22 à 24. On voit bien, donc, avec ces citations de psaumes, que le sens littéral de certains passages est impossible. Le seul moyen d'en saisir l'inspiration est bel et bien le sens spirituel, voire plus loin. En dernier lieu, précisons qu'il n'est pas toujours pertinent d'établir une distinction entre sens littéral et sens spirituel. Lorsqu'un texte biblique se rapporte directement au mystère pascal du Christ ou à la vie nouvelle qui en résulte, son sens littéral est un sens spirituel. Tel est le cas habituel dans le Nouveau Testament, notamment dans les Épîtres. Cette dernière remarque vaut d'ailleurs particulièrement pour le sens spirituel appelé allégorique, celui-ci concernant principalement l'Ancien Testament comme nous le verrons. De même, un texte traitant de la fin du monde ou de la vie éternelle est nécessairement spirituel dans sa littéralité. Il est donc par essence anagogique, voire plus loin, sens anagogique. En conclusion, nous pouvons résumer notre propos en disant que la lettre du texte, sa littéralité, n'est que le seuil du temple spirituel, la surface cachant les abîmes de sens. Vous comprenez mieux maintenant la raison pour laquelle les approches historico-critiques et rhétoriques ne peuvent être classées que parmi les clés de lecture préliminaires. Passons enfin au sens spirituel. Tout d'abord, une introduction. L'interprétation spirituelle part du postulat que si la Bible est bien la parole de Dieu, il y a derrière les intentions des auteurs humains, que s'efforcent de retrouver le sens littéral éclairé par l'approche historico-critique, donc les intentions mêmes, il y a donc derrière ces intentions des auteurs humains, les intentions mêmes de l'auteur en profondeur, à savoir Dieu. Dans ce cas, il est évident que le message voulu par Dieu englobe certes la pensée de l'auteur humain, mais va également bien plus loin. Ainsi est-il légitime de penser que le message biblique transcende l'histoire pour nous rejoindre dans notre quotidien, sens tropologique, se prolongeant jusque dans la vie éternelle, sens anagogique. Revenons maintenant au rapport que nous pouvons établir entre les méthodes que nous avons définies comme préparatoires et les sens spirituels. Comme nous venons de le voir, le sens littéral ou historique nous mène souvent à une impasse dès que nous abordons des passages difficiles, voire choquants. Les méthodes préliminaires, que sont les approches historico-critiques et rhétoriques, peuvent, quant à elles, effectivement nous aider à ne pas nous scandaliser, nous disposant par là à accepter la possibilité de rechercher un sens symbolique derrière une littéralité parfois intolérable et destructrice. Comme le dit saint Paul, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 6. Ainsi, ces approches préparatoires, comme leur nom l'indique, ne sont pas des fins en soi, mais bien plutôt des tremplins vers une réalité plus profonde que constituent les sens spirituels d'un texte. Ces sens ouvrent des routes insoupçonnées et débloquent véritablement nos méditations bibliques quand nous séchons devant des passages ardus. Mais avant d'aller plus loin, permettez-moi encore d'insister sur le fait que ces clés d'interprétation dites spirituelles ne sont pas censées être plaquées mécaniquement. Par exemple, il se peut qu'un passage se prête fort peu à l'un des sens spirituels, auquel cas il ne faut surtout pas faire violence au texte. N'oublions jamais que Dieu nous a donné certes une intelligence, mais que dans un même temps, il nous a promis l'assistance de l'Esprit dans la découverte de sa parole, confère Jean chapitre 16, versets 12 à 13. Cet Esprit pour lequel nous sommes invités à nous faire harpe ou sitar, psaume 33, verset 2, psaume 150, verset 3. Donc cet Esprit par lequel nous sommes invités à nous faire harpe ou sitar, le laissant jouer dans nos méditations des différentes cordes de l'interprétation spirituelle, tel un artiste qui d'un instrument sait tirer les plus belles harmoniques. En conséquence, c'est avec discernement, dans un esprit de prière, qu'il vous faudra utiliser ces interprétations. Je vous suggère d'ailleurs de commencer à utiliser votre esprit de discernement pour aborder la présentation qui va suivre. Par la force des choses, elle a donné lieu à un exposé artificiel de par sa segmentation, pour ne pas dire son saucissonnage. En effet, les sens spirituels ont été enfermés dans un catalogue assez réducteur, alors que dans la réalité, il y a sous la motion de l'esprit un va-et-vient constant entre différents sens. Il n'est effectivement pas rare que certains sens se rejoignent pour se confondre. Voir plus bas les exemples. Après ces avertissements, il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Maintenant donc, je vous propose une présentation proprement dite des sens spirituels. On distingue en général trois sens spirituels. Le sens allégorique ou typologique, le sens moral ou tropologique, et enfin le sens anagogique. Je vous propose par souci de clarté de vous introduire à chaque sens séparément. Ensuite, je vous fournirai quelques exemples à partir de textes suivis. Ces exemples seront plus complets que les simples citations-références qui vont vous être données à l'intérieur de la présentation de chaque sens spirituel. Commençons par le sens allégorique ou typologique. Ce sens était l'un des plus prisés au temps des pères de l'Église, mais il semble de nos jours être le sens spirituel le plus démodé. Il est vrai que s'il est exploité à la manière stricte des premiers chrétiens, il perd une grande partie de son actualité. En revanche, si cette interprétation allégorique est élargie, comme nous le verrons plus loin, elle reste d'un intérêt surprenant. Mais tout d'abord, définissons ce qu'est le sens allégorique à proprement parler. Donc, en premier lieu, il nous faut comprendre que l'interprétation dite allégorique n'a pas le sens qu'on lui donne en littérature. Si tel était le cas, elle équivaudrait à rechercher une symbolique plus ou moins vague dans le texte biblique. Par sens allégorique, voilà ce que l'on doit entendre. Le sens allégorique est l'interprétation d'un passage de l'Ancien Testament en fonction de l'incarnation du Christ, ou si l'on préfère, c'est l'explication des événements de l'Ancien Testament par les événements de la vie du Christ décrits dans le Nouveau Testament. Dans cette mesure, cette interprétation s'intéresse grandement à l'accomplissement dans le Nouveau Testament des prophéties de l'Ancien Testament, faisant ainsi ressortir la continuité entre l'Ancienne et la Nouvelle Alliance. Il est à noter que l'élément christologique par excellence, recherché par cette interprétation, est le sacrifice pascal, en d'autres termes, la croix et la résurrection, point d'orgue de l'incarnation. Remarquons tout de même que l'allégorie peut aussi fonctionner pour certains textes du Nouveau Testament, si ceux-ci nous montrent la place centrale du Christ dans les Écritures et dans l'histoire. Ainsi, certaines paraboles du Christ sont éminemment allégoriques, que l'on pense à la parabole des vignerons homicides, par exemple, qu'on fait en Matthieu 21, 33, 30, Matthieu chapitre 21, verset 33-34, Marc chapitre 12, verset 1 à 11. Il est manifeste donc que ce récit imagé est allégorique, puisqu'il raconte le sort réservé au Christ et le transfert de la mission d'Israël vers l'Église. Voir aussi l'exemple plus loin de la parabole du bon samaritain. Rappelons d'ailleurs que cet intérêt pour la vie du Christ comme centre des Écritures a également été abordé quand nous avons traité des prérequis. Je vous renvoie notamment à l'épisode des disciples d'Emmaüs, où Jésus explique tout l'Ancien Testament à la lumière de sa passion, confère Luc chapitre 24, versets 13 à 35, et aussi Jean chapitre 5, versets 39, puis verset 46. Où Jésus dit ouvertement que les Écritures parlent de lui. Il serait maintenant utile d'introduire une légère nuance entre sens typologique et sens allégorique. Nous n'avons en fait défini ce dernier sens que de manière générale, tel qu'il est parfois utilisé pour recouvrir allégorie et typologie. Le sens allégorique, en fait, élargit le sens typologique, qui lui est exclusivement centré sur le Christ. Typologique vient du grec type, qui veut dire figure, à comprendre ici comme figure du Christ. Le sens allégorique, quant à lui, pris dans sa signification stricte, tourne l'interprétation non plus exclusivement vers le Christ, mais vers des points centraux du Nouveau Testament, la résurrection, l'Église, le baptême, l'Évangile, le Nouveau Testament lui-même, le sens spirituel des Écritures, etc. Il est temps de voir quelques exemples d'interprétations allégoriques ou typologiques faites par les apôtres eux-mêmes ou par les pères de l'Église, à ne pas confondre avec les exemples donnés en toute fin de cet exposé. Vous allez voir, pardon, que certains passages qui nous avaient paru difficiles dans leur littéralité, au point de nécessiter l'aide d'une analyse historico-critique, s'éclairent par l'allégorie ou la typologie. Je vous disais plutôt. Commençons par le sens typologique. Adam, par exemple, comme figure du Christ, Romains, chapitre 5, verset 14. Le rocher frappé par Moïse en vue d'obtenir de l'eau, symbolisant le Christ, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 4. Melchisédek, Genèse chapitre 14, versets 17 à 20, plus Psaume 110, verset 4, comme préfiguration du Christ. Hébreux chapitre 5, verset 6, puis verset 10, chapitre 6, verset 20, chapitre 7, verset 3, puis verset 10 à 11, verset 15, verset 17, verset 21. Isaac, comme figure du Christ. Jean chapitre 8, verset 56. Ce passage de l'évangile de Jean est d'ailleurs bien mystérieux s'il n'est pas compris typologiquement. Le sacrifice d'Isaac, Genèse chapitre 22, verset 1-19, passage choquant son sens littéral, annonçant le sacrifice du Christ, sens typologique, et la résurrection des morts, sens allégorique, voire anagogique, confère Hébreux, chapitre 11, versets 17 à 19. Le bon samaritain aussi, dans la parabole du même nom, Luc chapitre 10, versets 25 à 37, symbolisant chez les pères de l'Église le Christ soignant et sauvant l'humanité. Et j'en passe des exemples, hein, et il y en a bien d'autres. Il y a tellement donc d'exemples similaires dans le Nouveau Testament, sans compter les écrits des pères de l'Église, qu'il serait trop long de tous les citer. Si toutefois vous désirez en avoir une liste quasi exhaustive, je vous recommande le Traité des Mystères, écrit par un père et docteur de l'Église, Saint Hilaire de Poitiers. Il y recense les principales préfigurations du Christ dans l'Ancien Testament. Avant de poursuivre, il est ici utile de rappeler à nouveau que le sens allégorique, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ne se limite pas à l'Ancien Testament, loin s'en faut. Confère l'exemple du bon samaritain que je viens de mentionner, ou la parabole des vignerons homicides, ou bien encore les exemples que vous trouverez à la fin de cet exposé sur l'interprétation de la Bible. Passons maintenant aux exemples allégoriques. Exemple, l'union d'Adam et Ève comme annonce du mystère de l'union entre le Christ et l'Église, Éphésiens chapitre 5, versets 31 à 32. Le déluge comme figure du baptême, 1er épître de Pierre, chapitre 3, versets 20 à 21. Le passage de la mer rouge, symbole du baptême, 1er épître aux Corinthiens, chapitre 10, versets 1 à 2. Sarah et Agar, Genèse chapitre 16, passage difficile que nous avons déjà abordé dans les sections consacrées au sens littéral et à l'approche historico-critique. Saint Paul, se référant à Genèse chapitre 16, dit explicitement que ce passage est à comprendre de façon allégorique. Agar, l'esclave représentant l'ancienne alliance, la Jérusalem présente, la loi, tandis que Sarah, la femme libre, renvoie la nouvelle alliance, la Jérusalem d'en haut, la grâce. Confère Galates chapitre 4, versets 21 à 31. Isaac, par exemple, déblayant les puits creusés par son père Abraham et bouchés par les Philistins, Genèse chapitre 26, versets 12 à 19, comme figure du Christ ouvrant le vrai sens de l'Ancien Testament obstrué par les pharisiens et les docteurs de la loi. Ici, c'est une interprétation d'Origène, père de l'Église, homélie 13 sur la Genèse. Et enfin, un passage du Nouveau Testament qui peut donner lieu à une interprétation allégorique, la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, versets 6 à 7, avec le trésor dans les vases d'argile, qu'Origène interprète comme symbolisant le sens spirituel des Écritures, le trésor, enfermé dans les vases d'argile, c'est-à-dire le sens littéral de l'Écriture, traité des principes 4, etc. Après ces quelques exemples, je voudrais maintenant vous montrer les résonances actuelles de cette interprétation, car à première vue, ce type d'approche biblique pourrait bien paraître dépassé. Les apôtres, pour leur part, avaient à convaincre les Juifs, d'où l'utilité de prouver la véracité de la mission du Christ à la lumière de l'Ancien Testament. Les pères, eux, étaient bien souvent des apologistes. À leurs yeux, la défense de la foi incluait nécessairement la démonstration que le Nouveau Testament accomplissait l'Ancien, l'accomplissement des prophéties apportant une preuve incontestable de la divinité du Christ. De plus, à leur époque, le judaïsme constituait encore une réelle concurrence. Il leur fallait donc montrer que le christianisme en était l'aboutissement. Mais pour nous, à quoi nous sert-il de recourir à l'interprétation allégorique ou typologique? C'est ce que nous allons maintenant voir. Une précision, les mots allégorique et allégorie dans ce qui va suivre seront de nouveau employés dans un sens général recouvrant l'allégorie à proprement parler et la typologie. Alors, tout d'abord, comme nous l'avons déjà dit dans les prérequis, le sens allégorique nous aide à voir dans chaque page de la Bible un message d'amour. En effet, le sens christologique ou typologique braque en quelque sorte les projecteurs sur le sacrifice pascal, la croix et la résurrection. Or, le fait que Dieu en son Fils soit mort pour nous sauver, en prenant sur lui nos péchés, confère Isaïe chapitre 53, chapitre 53, pardon, la première épître aux Corinthiens chapitre 1, verset 23-25, puis chapitre 2, verset 2, Éphésiens chapitre 2, verset 16, Philippiens chapitre 2, verset 6 à 11, Colossiens chapitre 1, verset 20, Colossiens chapitre 2, verset 14, première épître de Pierre, verset 2, chapitre 22 à 25. Donc je disais, le fait que Dieu en son Fils soit mort pour nous sauver en prenant sur lui nos péchés, nous rappelle obligatoirement que le dessein divin est de nous aimer et de nous sauver quoi qu'il en coûte. Avec cette constante à l'esprit, les pages de la Bible, même les plus sombres, s'éclairent singulièrement, d'autant que l'interprétation allégorique nous insiste à chercher les images du Christ, et tout particulièrement de son sacrifice dans les passages que nous lisons. Confère ce que nous venons de dire pour le sacrifice d'Isaac comme préfiguration de la croix du Christ. Alors bien loin de nous laisser choquer, nous découvrirons de magnifiques préfigurations et rappels de l'amour de Dieu pleinement manifesté en son Fils sur la croix. Toutes les pages de l'Écriture seront comme des canaux véhiculant l'unique source de l'amour de Dieu, à savoir son amour, magnifiquement révélé et accompli en Jésus. Romains chapitre 5, versets 6 à 8, 1er épître de Jean, chapitre 3, verset 16, chapitre 4, verset 9 à 10, puis verset 19. De plus, la vision allégorique de la Bible, en ramenant à notre esprit non seulement la croix, mais aussi la résurrection, ne manquera pas de raviver notre foi ainsi que notre espérance. Cette vision nous aidera à nous souvenir que le Christ est victorieux par son amour, et que par là, le bien finit toujours par triompher du mal, ou plutôt, que Dieu est plus fort que les forces des ténèbres, malgré les apparences au contraire. Confère Jean chapitre 16, verset 2 à 33, verset 32 pardon, à 33. Ainsi, le sens allégorique nous encourage à la persévérance et à la patience, sûr que la grâce du Père est à l'œuvre et qu'elle l'emportera comme elle le fit en la résurrection de Jésus. Enfin, ces types de la croix et de la résurrection, ou tout simplement du Christ, éclaireront à leur tour la vie de Jésus, principalement sa mort et sa résurrection, en projetant la lumière sous tel ou tel aspect de son ministère, qui n'est pas forcément mis en relief ou même présent explicitement dans les textes de l'Évangile. Ensuite, le sens allégorique, en nous tournant vers le Christ, ne peut que renforcer notre lien avec lui. L'interprétation allégorique contribue à nous faire comprendre que le sang de notre foi est bien notre relation personnelle avec Jésus, mort et ressuscité pour nous. Romains chapitre 8, versets 38 à 39, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 21, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, Galates chapitre 2, verset 20, chapitre 3, verset 27 à 29, Philippiens chapitre 1, verset 20 à 23. En résumé, en nous poussant vers le Christ dans les Écritures, l'allégorie et plus particulièrement la typologie excite et dynamise notre amour reconnaissant pour celui qui nous a aimés à en mourir. Cet amour caractérisé par une plus grande gratitude en nous pour notre Sauveur débouchera naturellement, s'il est aussi orienté vers sa résurrection, sur une foi renforcée et affermie en celui incarné, fou de sa création. Ensuite, la conséquence logique, donc la troisième raison qui fait de l'allégorie une lecture contemporaine, c'est la conséquence logique de cette relation au Christ, renforcée par la vision christologique de la Bible. Donc cette vision nous fera également prendre conscience de la nécessité de passer par le Fils pour arriver au Père. Jean chapitre 14, verset 6, plus Matthieu chapitre 11, verset 27, Jean chapitre 3, verset 16 à 17, Romains chapitre 10, verset 9, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 5, Philippiens chapitre 2, verset 11, Hébreux chapitre 1, verset 2, 1 Jean chapitre 2, verset 23, chapitre 5, verset 12, et enfin Apocalypse chapitre 7, verset 14. Nous découvrirons à chaque méditation combien le rôle de Jésus est central pour comprendre Dieu de manière juste, pour, en d'autres termes, l'adorer en vérité. Dieu ne sera plus jamais lointain, tel le Dieu horloger de Voltaire, qui, après avoir créé et organisé le monde par ses lois, s'en désintéresse. Vision hindoue. Bien au contraire, c'est un dieu qui s'investit jusqu'à la croix pour aller chercher la brebis perdue. Quelle autre religion peut se targuer de présenter un dieu aussi aimant? Seul le Christ peut nous révéler pleinement et définitivement l'amour divin. Jean chapitre 3 verset 16, chapitre 15 verset 13, Éphésiens chapitre 2 verset 4 à 5, chapitre 3 verset 17 à 19. Il s'ensuit que l'interprétation allégorique donnera le ton à tout dialogue interreligieux, nous protégeant de la tentation de passer par-dessus le Christ pour aller à Dieu, pensant rejoindre les autres religions dans l'adoration d'un Dieu qui, de fait, se trouve vidé de sa substance, inodore et incolore, fruit du plus petit dénominateur commun, privé de la force de la bonne nouvelle. Le sens allégorique nous rappelle avec force que le dialogue avec d'autres religions ne peut être que préparatoire à l'annonce du Christ, lui la pleine révélation de la personne du Père, Colossiens chapitre 2, verset 9. Éclairés par le sens allégorique des Écritures, nous aurons alors une juste approche des autres religions. Notre attitude sera certes caractérisée par le respect et la patience, mais en aucun cas par le relativisme. Enfin, l'allégorie, dans son sens strict d'élargissement de la typologie vers des points centraux du Nouveau Testament, sera une aide précieuse dans notre apprentissage de la lecture biblique. En effet, elle ne cessera de nous montrer que la lecture des Écritures ne doit jamais oublier la dimension spirituelle. Elle est un constant rappel de cet avertissement de saint Paul. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 6. Rappelons pour terminer que l'allégorie constituera toujours une aide précieuse pour prendre la pleine mesure de la nouveauté et de la radicalité de l'enseignement contenu dans le Nouveau Testament, et ce notamment quand il est comparé à l'Ancien Testament et aux autres religions. En conclusion, par l'allégorie ou la typologie, nous éviterons de nous laisser engluer dans la littéralité du texte qui, en certains passages de la Bible, est intolérable. Ce rappel à la lecture spirituelle de l'Écriture, que le sens allégorique peut faire ressortir en tel ou tel passage biblique, confère les exemples qu'on vient de mentionner tirés du Nouveau Testament et des Pères de l'Église, et les exemples aussi que vous aurez en fin d'exposé. Donc, je disais que ce rappel à la lecture spirituelle de l'Écriture, donc, est comme le bâton confié à Moïse, confère Exode chapitre 4, verset 2 à 5, Exode chapitre 14, verset 16, chapitre 17, verset 5 à 6, puis verset 9. Donc, c'est comme le bâton confié à Moïse, destiné à nous aider à cheminer dans les passages parfois rocailleux de la Bible. Dans cet ordre d'idées, disons que les approches historico-critiques et rhétoriques débroussaillent le terrain, alors que l'interprétation allégorique, et tout particulièrement l'interprétation typologique, le balise à l'aide d'un regard plus spirituel qui dépasse la lettre pour aller vers le but de la course qui est le Christ, confère Philippiens chapitre 3, verset 14. Voilà, fin de l'exposé sur les sens spirituels et le sens allégorique.